La reine Elisabeth II d'Angleterre est un cas unique. Son règne est d'une longévité exceptionnelle. Elle a traversé nombre d'événements mondiaux ou internationaux en tout genre, mais également des événements personnels, familiaux, qui ont défrayé la chronique et parfois fait scandale. Elle est une référence alors qu'elle a fêté ses 90 ans en 2016. Elisabeth II est donc un monument auquel vous consacrez une biographie publiée chez Perrin. Jean Descartes, bonjour.
Bonjour.
Merci de participer à cette émission. Vous êtes spécialiste de l'histoire des grandes dynasties européennes. Vous avez déjà consacré de nombreux ouvrages à quelques-uns de leurs plus illustres représentants. J'aimerais d'abord savoir si une biographie consacrée à Elisabeth II est un travail qui demande d'être abordé d'une manière un peu différente des autres.
Oui, dans la mesure où c'est la première fois que je consacre une biographie à quelqu'un qui est toujours vivant. Mais avec un règne de plus de 67 ans et un âge de 93 ans, il me semble que Elisabeth II est déjà entrée dans l'histoire. Et de toute façon, le jour où elle nous quittera, le monde, à mon avis, sera différent. Il manquera un personnage qui est à la fois le plus célèbre du monde et le moins connu. Parce que la reine est très discrète, contrairement à ce qu'on pense, sa famille l'a été parfois moins. Donc ça m'a fasciné de voir ce personnage en pensant, si vous voulez, que entre la guerre, l'après-guerre, un royaume héroïque, exsangue économiquement, le début de la décolonisation, la guerre froide, les histoires de famille, et elle a été gâtée, et une formidable adaptation à la modernité.
Alors c'est un personnage fascinant pour les raisons que vous venez d'exposer là, Jean Descartes. En même temps, c'est quelqu'un, une enfant, dont on n'imagine pas qu'elle deviendra reine un jour. Et son enfance est marquée par différents événements qui la marquent profondément.
Oui, la reine est née le 21 avril 1926. Il n'est pas question d'envisager un jour qu'elle serait souveraine. Ce qui est prévu par la loi de succession à ce moment-là, c'est que son oncle, le futur Édouard VIII, le futur sulfureux duc de Windsor, devait régner. Il a très peu régné, moyennant quoi cette année 1936 sera un cauchemar pour la famille royale, parce que George V, le grand-père d'Elisabeth II, le héros de la Première Guerre mondiale, meurt en janvier. Édouard VIII ne règne qu'à peu près 8 mois et abdique pour pouvoir épouser Madame Simpson en décembre 1936. L'année des trois rois pour les Britanniques est un cauchemar. Et cela fait avancer sur le trône le père de la princesse Lilibet, comme on dit à l'époque, Albert, qu'on surnomme Bertie, et qui devient le roi George VI, et qui sera le roi héroïque de la Seconde Guerre mondiale, constituant avec Churchill un duo politique, militaire et diplomatique absolument remarquable et inattendu.
Elle est donc l'héritière du trône.
L'héritière. Mais il faut quand même ajouter, et les archives sont très claires à ce sujet, le roi George V s'était assez vite aperçu que son successeur désigné, Édouard, était très léger, noceur, pas sérieux, intelligent, mais faible. Et il avait déjà esquissé l'idée que sa petite fille pourrait lui succéder. Et c'est pour cette raison qu'il va la faire monter au balcon de Buckingham Palace quand elle a 5 ans et 6 ans et apprendre le fameux salon, le Royal Wave, pour saluer la foule.
C'est une enfant qui a une sœur, Margaret. Ce sont des petites filles qui sont élevées dans quel climat ?
Dans un climat d'entente et d'harmonie familiale complète, ses parents s'adorent. Celle qui sera la reine-mère est un personnage extraordinaire, qui est écossaise et qui apprend à Elisabeth et à sa sœur à bien aimer toutes les parties qui constituent le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Écosse, l'Irlande depuis la partition des années 20, l'Angleterre proprement dite, le Pays de Galles. Et ils ne se quittent jamais, ils sont très heureux d'être ensemble.
Ces voilà. Quatre-là.
Les quatre-là. Us four, nous quatre. C'est très important parce que Elisabeth est très attachée à la vie de famille. Elle est sérieuse, elle travaille très bien, elle est très pointilleuse, très organisée. Sa sœur Margaret, c'est un peu le clown de la famille, elle s'amuse beaucoup. Elisabeth a beaucoup d'humour, s'amuse aussi, je le montre dans les photos rares qui sont dans ce livre, mais elle est beaucoup plus consciencieuse.
Elle est préparée à devenir reine dans son éducation et dans ce qu'on lui transmet en termes de savoir, de connaissances ?
Alors je dirais qu'on va lui transmettre une bonne éducation politique et constitutionnelle, une éducation un peu plus limitée sur le plan intellectuel et littéraire, ce dont elle souffrira et elle le dira elle-même.
Sa mère ne trouve pas ça vraiment essentiel.
C'est ça. Mais il faut bien comprendre dans le système de la monarchie britannique que le souverain a des droits et des devoirs comme le gouvernement. Alors il faut rappeler aux auditeurs que depuis la reine Victoria, le souverain britannique dispose de 3 prérogatives qui sont exprimées en principe chaque mardi par l'audience confidentielle donnée au Premier ministre. Le droit d'être informé, le droit de consulter, le droit de mettre en garde. Et ce qu'on oublie souvent en France, c'est que c'est en fait la reine qui conseille, car elle a eu tous les dossiers, et Elisabeth II, y compris encore aujourd'hui, travaille beaucoup. Elle reçoit ce qu'on appelle les royal boxes, ces boîtes de cuir rouge au monogramme du souverain, qui sont évidemment aujourd'hui complétées par toutes les procédures informatiques et cryptées possibles, de façon à étudier les dossiers, les projets de débat au Parlement, les projets soumis par le gouvernement, la situation internationale, les rapports de services secrets, etc. C'est une femme qui sait tout. Alors en fait, comme on dit le gouvernement de Sa Majesté à Londres, elle propose, le cabinet décide, mais si elle dit « êtes-vous sûr que ce soit la bonne décision ?» Par exemple, on peut très bien envisager, c'est une supposition, que lorsque David Cameron lui a parlé du référendum sur le Brexit, elle lui a nécessairement dit « êtes-vous sûr, monsieur le Premier ministre, que ce soit une bonne idée ?»
In this country, I've had to leave your home and be separated from your fathers and mothers.
Extrait du discours adressé par la princesse Elisabeth aux jeunes Britanniques en 1940.
My sister Margaret Rose and I feel so much for you. As we know from experience what it means to be away from those we love most of all. To you, living in new surroundings, we send a message of true sympathy. And at the same time, we would like to thank the kind people who have welcomed you to their homes in the country.
Vous avez fait rapidement allusion, Jean Descartes, à son implication dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est une jeune fille à ce moment-là qui ne fuit pas ses responsabilités et qui a le souci de manifester au peuple sa proximité et son engagement personnel.
Oui, elle le manifestera par un discours à la nation, mais enfin s'adresser à la jeunesse avec sa sœur Margaret pour dire combien elle partage les souffrances du peuple britannique, notamment les marins qui sont morts dans des débuts de la guerre contre l'Allemagne. Elle est très sensible à tout ce qui peut unir la nation. Alors il ne faut jamais oublier qu'elle est aussi, elle sait qu'elle va le devenir à la mort de son père, le chef du Commonwealth, qui à cette époque représente 32 États. 16 aujourd'hui. C'est une femme qui a une couverture politique et émotionnelle, je dirais, mondiale.
Et elle le manifeste dès la guerre ?
Elle le manifeste dès la guerre. Elle l'a manifesté dans ses fameux discours avec sa sœur pour dire qu'elle était au service de la nation. Et elle le répétera le jour de sa majorité, disant « Que ma vie soit longue ou courte, je serai au service de la nation et de ce lien qu'est le Commonwealth. »
Et alors quand on dit qu'elle a mis les mains dans le cambouis, c'est pas une image.
C'est pas une
image. C'est à prendre au sens propre
elle
du terme.
Elle a tenu à exercer le métier d'ambulancière, de mécanicienne d'ambulance, réparant des moteurs, conduisant. Elle était, il faut bien le savoir, au château de Windsor, où elle était réfugiée avec ses parents, parce que Buckingham Palace avait été bombardé, à côté de boîtes de biscuits où étaient cachés les joyaux de la couronne. Elisabeth et sa sœur étaient soumises aux mêmes restrictions que le peuple britannique. Un œuf par semaine, le dimanche, et un bain tous les jours dans une eau très limitée et très froide. Le niveau de l'eau dans la baignoire avait été fixé par son père. Elle a toujours partagé ce qui arrivait au peuple britannique.
Une autre chose importante qui va marquer sa vie d'adolescente, c'est la rencontre, on peut même parler de coup de foudre, pour celui qui deviendra son mari. Elle n'avait que 13 ans, la première fois qu'elle le voit, et ce garçon la fascine.
Alors ça se passe le 13 août 1900. 1839, c'est une période qui va devenir très vite sensible. Au Collège royal de Dartmouth, Elisabeth accompagne ses parents, Margaret, et elle est frappée d'amour, je dirais, par cet aspirant de la Royal Navy, Philippe, qui est un garçon très séduisant, qui a eu une vie compliquée. Son arbre généalogique est très impressionnant. Bref, il est né à Corfou en 1921, c'est un prince de Grèce dont la famille s'est mal entendue. Il a toujours été seul et il a été pris en charge, pour résumer, par Louis Mountbatten, qui est son oncle, et qui est sans doute aussi à l'origine de ce projet de mariage, parce qu'il avait une mentalité de marieur, Mountbatten, qui sera le négociateur de l'indépendance de l'Inde. Pour Philippe, même s'il y a de l'amour et de la tendresse, c'était, je dirais, un rétablissement social spectaculaire, mais évidemment le roi George VI s'opposera à ce mariage parce qu'il y a la guerre qui arrive, et Elisabeth est beaucoup trop jeune, donc le mariage sera repoussé au 20 novembre 1947. Alors, c'est un mariage qui est le premier mariage dans le Gotha au plus haut niveau de l'après-guerre. Mis en scène, si je puis dire, photographié par Cecil Beaton, qui est le grand photographe des cours, et médiatisé. Donc, ce mariage, selon la formule de Churchill, c'est un éclair de lumière dont le pays a besoin. Nous sommes en 47, après les bombardements de Londres et tout ce que l'on sait.
Jean Descartes, le roi George VI meurt le 6 février 1952. Elisabeth et Philippe sont au Kenya et c'est là qu'elle apprend que son père est mort et que donc elle est désormais la reine.
Alors, il faut rappeler que George VI donc, ne devait pas régner. C'est le célèbre roi qui bégait. On se souvient du film Le Discours d'un roi, qui est un homme très courageux qui va prendre ses leçons avec un orthophoniste assez pittoresque. Et qui sera formidable pendant la guerre, d'exemple, avec son épouse, la reine-mère, qui aura des mots étonnants du genre quand Buckingham Palace est bombardé, elle sort et elle dit « Moi aussi, je peux regarder les quartiers populaires de l'East End, nous avons été bombardés. » Elisabeth et Margaret ont vécu la peur des bombardements allemands, le rationnement, l'espionnage, enfin tout ce qui pouvait arriver. Le roi George VI, qui avait un cancer du poumon, qui fumait énormément, y compris avec Churchill, savait très bien qu'il était en grand danger. Il avait retiré presque un poumon à Buckingham Palace, transformé en hôpital. Donc, au début de 1952, lorsque Elisabeth part faire une tournée, y compris de gratitude envers les colonies, anciennes colonies et tous les territoires qui ont participé à la guerre aux côtés du Royaume-Uni, on l'a vu longuement saluer sa fille à l'aéroport de Londres, exceptionnellement.
Ce qui était
longuement.
Inhabituel. Hein.
Voilà. Mm-hmm. Il savait lui-même qu'il était condamné.
C'était un adieu, en quelque
C'était
sorte.
C'était un adieu, absolument. Et alors, la nouvelle est arrivée selon un code. Il y a d'ailleurs un code aujourd'hui pour la mort du souverain, et qui a été donné par erreur il y a 2 ans, et la reine, recevant le directeur général de BBC, qui était dans ses petits souliers, vous imaginez, elle lui a dit simplement « Quelle nouvelle, je n'étais pas au courant ». Bien. Alors, elle est avec Philippe au Kenya, donc un aide-de-camp est le premier informé, et c'est lui qui informe Philippe, et c'est Philippe qui va informer son épouse du décès du roi George VI. Un changement fantastique dans la vie publique et privée. Désormais, Philippe devra marcher 3 pas derrière son épouse. Elle était arrivée princesse héritière, elle est en reine, en revenant à Londres après un voyage très compliqué. Et bien sûr, elle descend en noir.
C'est Churchill qui l'attend à la descente de l'avion ?
C'est Churchill qui l'attend à la descente de l'avion. Alors Churchill sera très vite fasciné par la connaissance politique et technique des dossiers qu'a la reine. Et va naître une grande, grande complicité. Ils s'entendront très bien. Ils vont même discuter des courses et de paris, puisque la reine parie beaucoup, jamais de sport, bien sûr, comme dit Churchill. Il restera son premier ministre longtemps, et puis il voudra finalement partir parce qu'il est très âgé. Et au décès de Churchill en 65, alors que la reine ou le roi ne doit pas faire de commentaires sur le premier ministre, enfin de commentaires publics, qu'il soit vivant ou décédé, elle a fait une exception pour Churchill en disant qu'il était divertissant.
Alors quel délai entre ce moment où elle rentre en souveraine à Londres et le couronnement.
Eh bien, un long délai de deuil, parce qu'il fallait s'y préparer. Politiquement, on était entre 52 et 53. Staline est toujours vivant. Il y a un après-guerre compliqué en Allemagne. Il y a les pays d'Europe centrale qui s'agitent. La décolonisation, c'est très complexe. En plus, budgétairement, on veut faire les choses bien, mais pas n'importe comment. Donc ce couronnement a une particularité, elle exige que son sacre et couronnement soient télévisés. Churchill est contre, il y a une grande polémique, la BBC ne sait plus quoi penser. Alors la télévision est encore rudimentaire, elle est en noir et blanc bien entendu, mais la jeune reine a compris que la télévision changeait la vie des gens et que ce serait une faute politique de réserver aux seuls invités de l'abbaye de Westminster les fastes de ce couronnement, non seulement dans les pubs, mais dans les plus lointaines habitations, dans les villages perdus, dans les montagnes.
On doit pouvoir y assister.
On doit pouvoir y assister comme si on était invité. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a voulu faire respecter la partie mystique et sacrée, le sacre proprement dit, en disant « ma vie commence aujourd'hui au sacre, sa vie de chef de l'Église et de souveraine, les deux choses étant liées ». Et on a mis un dais pour ne pas filmer le moment mystique. On n'a pas voulu violer, si vous voulez, l'intimité du sacré.
Elle est donc chef de l'Église anglicane.
Elle est chef de l'Église anglicane, elle nomme les archevêques, elle est très consciencieuse en matière de religion. Depuis Henri VIII, on sait ce qu'il en est. C'est très important pour elle, et porter la couronne de Saint-Édouard et puis une un peu moins lourde qu'on appelle la couronne d'État, impériale d'État, tenir le sceptre, faire un serment de foi et de bon jugement comme autrefois les rois saints. C'est très très émouvant, c'est une cérémonie très longue et qui va marquer le début de l'après-guerre.
Pour la sixième fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Parti de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Édimbourg se dirige vers l'abbaye de Westminster entre deux haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. Millions de spectateurs sont en effet debout sur le passage du cortège. La plupart ont passé la nuit à leur place, mais la vue du carrosse doré, le visage clair de cette reine de 27 ans qui symbolise l'avenir britannique, sont une magnifique récompense.
La suite de l'histoire.
Elle est déjà mère de famille. Lorsqu'elle est couronnée, elle a deux enfants.
Absolument, elle a deux enfants.
La famille vit à Buckingham Palace.
Alors la famille qui se trouvait à Kensington, a changé de domicile en devenant, puisque Elisabeth II devient la reine. Il faut rappeler que Buckingham est un palais entré dans l'histoire à partir de la reine Victoria. C'est immense.
600 pièces,
c'était très mal chauffé, très mal éclairé. Il va falloir organiser tout ça. Et dans cette période, est en train de mijoter un complot ourdi par Moscou, qui n'explosera que bien plus tard, mais enfin, ce sera stupéfiant pour la reine. Sir Anthony Blunt, spécialiste du 17e français, notamment de Nicolas Poussin, avait été un agent secret au service du roi George VI contre l'Allemagne pendant la guerre. Et on découvre que c'est en fait un agent de Moscou, qu'elle
trahison.
Avait décoré, qu'elle va dégrader, donc qu'elle voyait à peu près tous les jours, ou au moins une fois par semaine. Donc, elle a vu de près ce qu'était la guerre froide.
Est-ce que très vite, Jean Descartes, on s'aperçoit que c'est une jeune femme qui a la carrure, qui entre très vite dans le rôle et qui l'incarne
absolument.
Véritablement
elle l'incarne et c'est en ce sens que sa préparation politique avait été réussie. Devoir et droit du souverain constitutionnel, ne pas choquer, ne pas exprimer publiquement son opinion, fédérer le maximum d'opinions et d'avis pour mécontenter le moins de gens possible, c'est la règle de vie du monarque. À la limite, je vous dirais, peu importe que le Premier ministre, le gouvernement soit travailliste ou conservateur, est-ce que la décision prise est bonne ? Il y en a des bonnes et des mauvaises de tous les côtés.
quitte à passer quand même pour quelqu'un qui n'a ni sentiments, ni émotions, ni affect.
Alors, parce qu'elle ne doit pas montrer ses sentiments, c'est une réflexion personnelle, en anglais « never explain, never complain », on ne dit pas, on ne se plaint pas. Alors, ça a un revers, c'est qu'on a l'impression que la reine, effectivement, n'a aucun sentiment, une passion est froide. Non, elle est neutre, elle est distante, et si elle a des douleurs, elles ne peuvent être que personnelles, et si elles sont nationales, alors à ce moment-là, c'est une catastrophe complète. Alors, je prends deux exemples, en allant plus vite. On a vu, jusqu'à présent, la reine pleurer en public une seule fois. C'est bien plus tard, lors du désarmement du yacht Britannia. Pourquoi pleurer pour un yacht ? C'est oublier que c'était la seule maison qu'elle a construite avec Philippe. Parce qu'à côté des 10 siècles de Windsor, des fastes victoriens de Balmoral ou même du manoir privé de Sandringham, ce bateau, qui était une unité de la Royal Navy quand la reine était à bord, qui était équipé pour toutes les transmissions, toutes les données de communication de l'époque, avait été meublé selon son goût, arrangé. Elle y était heureuse à bord parce qu'il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas de politiciens, il y avait 200 marins. Et c'est un bateau impressionnant. Il est aujourd'hui dans le port d'Édimbourg. Et on voit que c'était très simple, mais c'était l'évasion. Après près de 800 voyages officiels. Donc la reine a versé une larme. Mais d'un autre côté, lorsqu'elle a appris l'assassinat de Lord Mountbatten par Lyra, la reine était près d'un jardin. Elle s'est éloignée en ne disant rien, mais on a vu, les témoins, on a vu qu'elle sanglotait de dos.
Donc le mot d'ordre, c'est quand même la maîtrise.
La maîtrise.
Et la pudeur.
Et c'est la raison pour laquelle elle ne s'entendra pas avec sa belle-fille Diana, qui voulait exposer ses attitudes, ses souffrances, ses griefs, etc.
Jean Descartes, quel est le réel rôle politique de la reine Elisabeth II ? Est-ce qu'il est réel ? Est-ce qu'il est effectif ? Ou bien elle a essentiellement un rôle de représentation ?
C'est un rôle de représentation, mais c'est aussi un rôle d'influence. Et elle a fait de son pouvoir constitutionnel, qui est nécessairement discret, parce que tout est secret entre le Premier ministre et le souverain. Alors on peut supposer, vu la tournure des événements, que la reine était plus ou moins contente ou pas, mais une fois que c'est public, on doit unir le maximum de gens. Elle est là pour représenter l'État et la continuité de l'État. Ça fait tout de même, à travers 9 dynasties, une longue histoire avec tout ce qui s'est passé entre les Stuarts, les Hanovre, les Lancastre, les guerres civiles, enfin tout ce que vous voulez. C'est un grand apaisement. Elle l'a dit elle-même lorsqu'elle a été sacrée et couronnée. Une nouvelle ère élisabéthaine commence. Donc, ne pas croire que la reine est froide. Elle sait tout. Elle a son idée. Elle en parle à qui de droit. Et après, elle laisse faire le gouvernement.
Le lien avec le Premier ministre est important quand même.
Ah, le lien avec le Premier ministre est essentiel. Avec Churchill, c'était de la complicité. Et on sait que volontiers, il parlait de course de chevaux, mais surtout pas de sport. Et je rappelle que la reine avait parié le jour de son couronnement. Et son cheval a perdu. Et elle a dû consoler l'entraîneur. La reine est une experte. Elle a des chevaux d'ailleurs qui sont en France, pays qu'elle aime beaucoup. C'est une passion. Alors il y a la passion des corgis. Elle en est au 68e, au moment où nous parlons.
Qu'est-ce que c'est que les corgis ?
Les corgis, une race de petits chiens qu'elle a mis à la mode quand on lui a... C'est son grand-père qui lui en a offert un. Ces chiens qui aboient tout le temps quand ils voyaient le prince Philippe et qui sont déchaînés. Mais il y a aussi, si vous voulez, cet humour, cette distance de quelqu'un qui sait tout. Surtout, mais qui ne va pas parler inutilement, est impressionnante par la capacité de garder secret des confidences d'État depuis tant d'années.
Pour en venir au Premier ministre, ça n'est pas elle qui le nomme, mais elle donne son assentiment, c'est elle.
Elle le nomme, fonction du résultat des élections. Quelquefois, il y avait égalité, elle a dû en nommer un, je dirais pas au hasard, mais en faisant un choix personnel pour que le gouvernement statue. Et le gouvernement doit bien faire attention à bien respecter son rôle. Madame Thatcher s'est assez mal conduite, indépendamment de ses grandes qualités politiques, par exemple, en commençant à s'habiller comme la reine. Ça ne se fait pas, non, évidemment. ou en oubliant d'inviter la famille royale, y compris la reine, au retour des troupes victorieuses de la bataille des Falklands. Parce qu'il faut dire quand même que la reine avait commencé par un fiasco politico-militaire dont elle n'était pas responsable, mais enfin qu'elle avait endossé, qui était la crise de Suez en 56. C'était une humiliation après l'héroïsme des troupes britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon.
Le Premier ministre, elle le nomme et ensuite elle s'entretient avec lui régulièrement.
Ah bah, une fois par semaine minimum et plus quand il y a des crises. Et il y a eu une petite fuite au moment du référendum sur l'Écosse où c'est David Cameron qui a commis cette bavure. Il a dit, lorsqu'il a téléphoné à la reine sur une ligne sécurisée, évidemment, pour lui dire que l'Écosse, à ce moment-là, refusait l'indépendance, il a dit que la reine se mettait à ronronner de plaisir. C'est un début de commentaire. Nous n'aurions pas dû le savoir. Mais on peut comprendre l'attitude de la reine, la façon dont elle se comporte. C'est un petit peu comme ses audiences, si vous voulez, si elle vous parle, et si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, son sac change de bras, ça veut dire discrètement que l'audience est terminée. Il y a des codes silencieux qui sont fondés sur la bonne éducation, voilà.
Novembre 1978, la reine ouvre le Parlement, James Callaghan est encore au pouvoir. Elle fait son entrée à la Chambre des Lords, elle est accompagnée du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Elle commande à un haut dignitaire, le Black Rod, de convoquer à la Chambre des Lords le speaker et les membres de la Chambre des communes. Lorsque le Black Rod approche, la porte de la Chambre des communes se referme sur lui. La Chambre basse manifeste ainsi son indépendance vis-à-vis du pouvoir royal. Il frappe et on lui ouvre selon le rite. Une étonnante procession, côte à côte, la majorité et l'opposition de Sa Majesté par ordre hiérarchique. Les députés s'entassent debout au fond de la Chambre des Lords, dont ils sont les hôtes exceptionnels d'un jour, et la reine lit le discours du trône.
On a parlé déjà de la longévité de son règne et des crises qu'elle a dû affronter sur le plan politique. Il y en a eu beaucoup, sur fond de guerre froide jusqu'en 1989 au moins.
Oui. Et puis il y a, si vous voulez, alors là, la médiatisation est entrée dans sa vie, alors volontairement avec le film du couronnement. Ensuite, dans les années 60, pour rapprocher la monarchie du peuple, une idée qui n'était pas bonne, mais il faut faire l'expérience, elle a accepté qu'on tourne un film Royal Family, où on voit le prince Philippe et elle en train de pique-niquer dans les Landes écossaises, à table échangeant des plaisanteries plus ou moins fines, et ça a été catastrophique. Donc ce film aujourd'hui est introuvable, les copies ont disparu mystérieusement, mais la reine en a tiré une leçon sur la mesure, je dirais, des relations avec les médias. Et ça, c'est très important parce que elle a toujours été claire, et c'est là où ce fut un conflit avec Diana, qui jouait au chat et à la souris avec les médias et qui convoquait des journalistes. Et puis quand ils arrivaient, évidemment, pour une bonne photo, disaient « mais je vous ai pas sonné », etc. Donc la reine avait une distance, elle a appris tout ce qui pouvait être utile. Et je voudrais dire tout de suite que quand j'entends parler aujourd'hui que Meghan va dépoussiérer la monarchie britannique, mais c'est la reine elle-même qui dépoussière depuis 1953, par son attitude, regardez, les années 60, la reine décore les Beatles dans le Swinging London de la mini-jupe et du collant. Elle décore 4 chevaliers de l'Empire britannique avec lesquels elle s'entend très bien. Elle a décorer les ingénieurs et certains des ouvriers du prolongement de la ligne du métro très rapide qui va rejoindre la City et Heathrow, à l'aéroport de Londres, avec une robe évidemment qui était aux couleurs de la tenue du personnel et du logo de la ligne. Elle a toujours joué sur toutes les époques. Elle a, je dirais, réinventé la monarchie en la modernisant, mais en ne sacrifiant jamais à la tradition.
Première accolade franco-britannique au terminal de Coquel, celle de deux Eurostars. L'un parti de la gare de Waterloo de Londres avec à son bord Sa Majesté Elisabeth II, l'autre emprunté par François Mitterrand dans la nouvelle gare, l'île Europe. Le rêve vieux de 2 siècles devient réalité, le tunnel devient officiellement la nouvelle frontière terrestre entre la France et l'Angleterre. Peu avant 13h, la coupure du ruban en dentelle de Calais symbolisera cette ouverture. Viennent ensuite les discours et la reine d'Angleterre, pour l'occasion, s'exprimera en français.
C'est la première fois dans l'histoire que les chefs d'État de France et de Grande-Bretagne se rencontrent sans avoir dû prendre le bateau ni l'avion.
Est-ce que c'est une reine qui voyage ?
Ah ben écoutez, elle a fait près de 1000 voyages. Son premier voyage en tant que princesse héritière était en France, à Paris. La reine parle un français parfait. Elle a fait, à ma connaissance, 7 voyages en France.
Est-ce qu'elle voyage aussi dans le Commonwealth ? Elle est allée...
Elle n'a pas arrêté. Alors, jusqu'à présent, elle a voyagé partout et avec des voyages très lointains. Elle était toujours en contact avec le gouvernement, avec les services compétents.
Et mais quels étaient les objets de ses voyages ?
Ah ben, se faire connaître comme chef du Commonwealth, comme successeur de George VI, faire connaître la famille, aller en Australie, au Canada, où elle a dansé le square dance, et rapporter des souvenirs quelquefois invraisemblables qu'on lui a donnés. Oui, pas loin de 1000 voyages. Et au Ghana, ex-colonie britannique, et qui est devenu un pays sous obédience marxiste de Moscou, elle accepte de danser avec le président du Ghana qui lui dit publiquement qu'elle est la meilleure des reines socialistes.
À travers ses voyages, elle cherche aussi à consolider l'appartenance au Commonwealth cohésion.
Oui, parce que ce sont des liens linguistiques, des anciens liens politiques, des liens culturels. C'est une communauté, on met en commun les richesses communes et c'est toujours le cas. Bon, elle est chef d'État aujourd'hui de l'Australie, du Canada, je le rappelle, la Nouvelle-Zélande et d'un tas d'autres pays moins connus, où il y a des républiques, où il y a des monarchies avec leurs propres souverains. C'est une curiosité à laquelle elle est très attachée. Au moment du mariage de Meghan et de Harry, elle a présidé, peut-être pour la dernière fois, la grande réunion du Commonwealth, souhaitant que le prince Charles lui succède. C'est pas un fantôme d'empire, mais il y a un héritage commun qu'il faut partager.
Sans compter qu'elle a donc connu tous les grands chefs d'État et grandes personnalités de ce monde des 60 dernières années, de Kennedy à Gandhi, de Gaulle à...
Oui, au moins 7 présidents de la République française. Mais n'oublions pas qu'avec le Commonwealth, en plus, le travail de la reine a été de nommer, après avoir étudié leur candidature, plus de 160 premiers ministres des États du Commonwealth, en plus de ceux du Royaume-Uni.
Tout cumulé.
Voilà, donc c'est tout de même considérable comme travail de connaissances, de dossiers, etc. Je vous dis, ce qui est fascinant, c'est la capacité de retenue, le devoir de réserve. Et je pense que les plaisanteries vaseuses, souvent du prince Philippe, sont un peu d'oxygène et des blagues permettant de rire un peu dans un univers extraordinairement codifié.
Et un peu compassé ?
Compassé, non, c'est de la tenue, c'est parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et je pense que la reine aujourd'hui, entre l'explosion des réseaux sociaux, de toutes les technologies ailleurs, je pense que la reine est très méfiante tout en appréciant toute l'évolution technique. Elle a même, au début de l'année 2018, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a commenté le film de son couronnement, alors qu'elle n'accorde jamais un interview. Elle a commenté la façon dont la couronne représente le lien avec le peuple, la tradition des sacres et des couronnements des rois d'Angleterre puis du Royaume-Uni. C'est formidable.
Jean Descartes, on ne peut pas évoquer Élisabeth II d'Angleterre sans parler de sa famille. C'est une dimension de sa vie qui est importante pour elle, ses enfants, son mari. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle aura eu à faire face à un certain nombre de difficultés et d'épreuves.
Oui, la reine est chef de famille, en même temps que chef de l'Église et chef d'État. Alors, je dirais chronologiquement que le premier problème familial infernal pour elle a été le cas de son oncle, Édouard VIII, qui avait abdiqué, qui a fait trembler la monarchie et qui l'a mise en danger. Il se passera après l'exil d'Édouard VIII 30 ans avant que Élisabeth ne revoie son oncle, qui était tout le temps quémandeur pour de l'argent et qui n'avait pas été invité à son couronnement ni à son sacre, bien entendu.
La deuxième difficulté, c'est peut-être sa sœur, Margaret.
Avec sa sœur Margaret, et ça commence par une intervention médiatique. Le 2 juin 1953, alors que la reine est dans son carrosse et regagne Buckingham Palace, ça y est, elle est couronnée et sacrée. Margaret, sa sœur, attend sa voiture elle aussi, et un photographe saisit un petit geste de Margaret sur l'épaule d'un officier en uniforme. elle chasse une petite plume. L'intimité de ce geste provoque tout de suite les interrogations et les commentaires que je me suis posés. Il s'agit du capitaine Townsend, héros de la Royal Air Force. Et on connaît l'histoire, elle ne pourra pas l'épouser. Alors, il faut tout de suite dire qu'elle n'est pour rien dans le scandale. Elle adorait sa sœur. Elle a essayé de la défendre. Malheureusement, Margaret, très indépendante, se tient mal, boit. Finalement, le gouvernement dit, mais enfin, nous n'avons tout de même pas accordé une liste civile à une princesse ivrogne qui se tient mal, etc. Et ce sera le cauchemar pour Elisabeth II, parce qu'elle adorait sa sœur. C'est pas elle qui a créé l'affaire Margaret, c'est Margaret toute seule. Alors, amplifiée par les médias, on aura à l'époque aussi Soraya, la princesse triste, et les magazines de l'époque vont faire leur chou gras de ces princesses malheureuses.
Alors, il y a aussi quand même beaucoup de convenances dans cet univers-là, beaucoup de codes. Il y a des choses qui se font, d'autres qui ne se font pas.
Oui,
les choses paraissent quand même un peu figées dans cet univers.
Non, figées, non, je dirais, mais il y a un code, il y a des usages. Quand un gouvernement alloue à une personne un budget, une liste civile, on attend que la personne, mais ça c'est valable partout, ce serait même valable en République si quelqu'un se tenait très mal. Voilà, parce que c'est un argent public. On ne voulait pas être choqué. Alors, on est quand même encore, n'est-ce pas, dans les années 60, avant la révolution des Beatles, je dirais, dans un monde qui se reconstruit, où la vie est très dure.
Alors, on a parlé du mariage d'amour entre Elisabeth et Philippe. Ça n'empêche pas quelques rumeurs, pour le moins, concernant les éventuelles infidélités du prince consort.
Absolument. Qu'il y ait eu des incidents, des coups de canif, peut-être. On a beaucoup glosé aussi, parce que le prince Philippe est un homme très séduisant, avec beaucoup d'humour. Bon, il appartenait à un club où il y avait des gens qui étaient assez joyeux et assez débridés. Il faut dire que le prince Philippe a énormément travaillé. Maintenant, il est retiré depuis 2 ans de la vie publique, mais enfin, il a présidé 600 ou 700 fondations, associations. Ne pas croire qu'un prince consort ne fait rien. Au contraire, c'est même une série de corvées absolument épouvantables. Bon, il a été absent, il est parti pour les Jeux Olympiques de Melbourne plusieurs mois, ils se sont retrouvés. Peut-être que par moment, le fait que la reine fasse passer son devoir d'État avant, éventuellement, son devoir d'épouse et de chef de famille, a pesé lourd. Enfin, ça, c'est l'éternel problème, mais amplifié à la puissance 1000, de la vie privée, de la vie publique, et surtout de l'image qui est donnée. Car dans une monarchie, la famille royale est la première famille. Elle doit donc donner l'exemple. Alors, elle peut souffrir, elle peut se réjouir, mais tout ça doit être de bonne tenue. Si c'est un drame, le pays le partage. Si c'est une joie aussi, avec beaucoup de nuances.
Ensuite,
et dans le feuilleton The Crown, pardon, ce qui est très bien fait, le public nombreux de cette série croit voir la reine. Et
une série télévisée.
On est très proche de cette série télévisée, qui est un grand succès. Il y a des bonus sous le contrôle de mes excellents confrères, Robert Lacey, qui dit là, c'est pas tout à fait exact, là, c'est possible quand il y a des doutes sur le scénario qui va très loin. D'ailleurs, je ne sais pas jusqu'où va aller la série, parce que ça se rapproche progressivement de la situation actuelle, mais c'est assez formidable et chapeau, disons, à la famille royale et à la reine de permettre cette réalisation qui présente à la fois la vie publique et l'intimité.
Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de
la suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Viennent évidemment aussi les difficultés qui ont fait la une des tabloïds et des journaux. Ça a été vraiment une épreuve pour la reine.
Oui, parce que c'était un étalage de problèmes personnels et privés, de problèmes de chambre à coucher, d'incompatibilité, que déteste la reine, surtout quand Diana a commencé à dénigrer Charles. Bon, Diana avait fait un pari. Charles oubliera Camilla. Bon, elle a perdu son pari, donc elle était furieuse. Elle a eu une vie de provocation et le traumatisme dans cette nuit d'août sous le tunnel de l'Alma, où elle a trouvé la mort, enfin elle est morte en cours de route avant la Sainte-Pétrière.
Ces couples parmi les enfants donc de la reine qui ont divorcé, c'était une première dans l'histoire de la monarchie anglaise ?
Non, depuis Henri VIII, on sait que le mariage n'était pas toujours extrêmement solide, mais par rapport à l'union merveilleuse de George VI et de la reine, devenue la reine mère Elisabeth, évidemment, c'était un reflet d'une époque agitée où les médias commençaient à être envahissants. Mais encore une fois, Diana, enregistrant des conversations, livrant à la BBC dans l'émission Panorama son adultère avec un officier qui, ayant avoué ça, a trouvé sur son lit, dans son baraquement, le soir, 4 plumes blanches qui étaient le signe de la trahison dans l'armée des Indes. Donc elle a joué avec l'opinion. Rappelez-vous, quand elle pose seule devant le Taj Mahal, ça veut dire « je suis seule », et elle pose devant le mausolée de l'amour éternel. C'était tout de même assez... Bon, je pense qu'elle a
été très
malheureuse. Non, ce qui n'était pas faux. Mais elle avait tout de même négocié avec la reine une confortable indemnité de 17 millions d'euros. La reine lui avait demandé d'essayer de se calmer un peu, et surtout, étant la mère d'un futur roi, William, la reine avait exigé que les services secrets officiels continuent à la protéger et à protéger ses petits-enfants. Ce que ne voulait pas Diana, qui dans un délire total disait « ils veulent m'assassiner ». Bon, c'est comme ça, et nous revenons à la nuit du drame, au départ du Ritz, que... Elle avait un garde du corps qui n'était pas très professionnel, que la voiture, la Mercedes n'était pas une voiture homologuée, etc. Vous voyez, dans cette obsession de dire on veut me tuer, non.
Et comme son peuple, la reine, accompagnée d'une partie de la famille royale, est descendue dans la rue pour rendre hommage à la princesse de Galles. Pour la première fois dans l'histoire, la reine a fait mettre le drapeau britannique en berne sur son château de Buckingham. Et le peuple anglais a applaudi. Et
le peuple anglais a versé... L'année 1992 reste pour la reine d'Angleterre, voilà,
oui,
une année particulière où une succession comme ça d'épreuves et de drames sont à surmonter, et notamment l'incendie de Windsor.
Alors, voyez-vous, j'y ai repensé lors de la tragédie de Notre-Dame, que comme des millions de gens, j'ai vécu en direct. Et je pensais à Windsor, car pour la reine, c'était épouvantable. Elle adore Windsor, qui est lié au nom que le roi George V a donné à la famille, un nom moins germanisant, en 1917, où elle a vécu énormément. C'est la dernière forteresse du monde et la plus grande qui soit toujours habitée, avec des trésors, avec la salle Saint-Georges où se réunissent les chevaliers de la jarretière depuis le XIVe siècle, avec les réceptions d'État, avec les dîners privés, avec les fêtes de Noël, les mariages... Et la reine a été réveillée en pleine nuit, elle s'est fait conduire. Alors là, il y a eu une conséquence, c'est que les travaux de restauration étaient tellement épouvantables que l'opinion s'est mise à protester contre le fait que la reine ne payait pas d'impôts. Elle a dit « je paierai des impôts ». Elle a ouvert Buckingham l'été. Mais ça a été un traumatisme, l'anus horribilis, parce que c'était non seulement sa vie, son enfance, sa jeunesse, et tout un symbole fantastique qui n'avait pas été bombardé par l'aviation de Hitler, mais c'était des siècles et des siècles d'histoire qui pouvaient s'envoler en fumée.
1992 n'est pas une année que je me remémorerai avec plaisir. Elle s'est révélée être une annus horribilis.
Car à l'époque, les scandales se succèdent. La presse ironise sur les affaires de la famille royale. Aucun enfant d'Elisabeth ne donne le bon exemple, selon elle. L'image qu'il renvoie est alors déplorable. 3 sur 4 connaîtront la séparation.
Pour la première fois, elle doit faire face à une forme d'impopularité.
Alors, il y a une première impopularité, et c'est surtout au moment de Diana. Elle est en Écosse, à Balmoral, lorsqu'on l'a réveillée à 3h du matin pour la mettre au courant de ce qui s'est passé à Paris sous le pont de l'Alma. La reine n'avait pas pensé que sa belle-fille était restée très populaire. Donc, au bout de 2 jours, il a fallu que le Premier ministre, Tony Blair, et je pense qu'il a peut-être sauvé la reine et la monarchie à ce moment-là, lui dise « Madame, vous devez apparaître ». Donc, elle est apparue, c'est-à-dire, on a vu quelque chose impensable, la reine à pied, et le prince Philippe sortir de Buckingham et se diriger vers les grilles qui étaient couvertes de fleurs.
En parce hommage à la princesse Diana.
Tout simplement avec une critique féroce. « Where is our queen ?» titraient les journaux. « Où est notre reine ? Y a-t-il une reine ?» Et elle va mettre, nous le savons, des années à reconquérir cette popularité qu'elle avait toujours eue. Ce sera avec le mariage de William et Kate.
Jean Descartes, malgré les différentes crises que nous avons évoquées et que la reine d'Angleterre a eu à surmonter, est-ce qu'on peut dire que les Britanniques restent très attachés à la couronne, à la monarchie ?
Ah oui, ils sont très attachés, d'autant plus que le Brexit est un maelstrom, un cauchemar assez ubuesque, où tout et son contraire, au moment où nous parlons, peut arriver, ce qui chagrine nécessairement la reine qui s'est toujours bâtie pour l'Union et pour l'idée européenne du Royaume-Uni. Je rappelle que, avec beaucoup de courtoisie, je trouve, et d'humour, elle avait dit au président de la République, François Mitterrand, « Nous inaugurerons ensemble, monsieur le président, le tunnel sous la Manche, mais je viendrai du côté français pour vous accompagner, mais dans sa Rolls ». Bien sûr, donc c'était un symbole, car la reine est très européenne. Elle a entrepris des voyages en Allemagne où les racines germaniques lointaines, plus les ambiguïtés de son oncle, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant la guerre, étaient assez délicats. Elle a réussi à faire tous ces pèlerinages, si vous voulez.
Et donc les Britanniques restent très attachés à sa personne.
Restent très attachés parce qu'au moins dans le cauchemar du Brexit et au moment où nous parlons, la reine est là. L'avenir est assuré, c'est le principe de la monarchie. Charles peut très bien monter sur le trône. Est-ce qu'il aura envie de régner ou pas ? Il se permet, comme tout prince de Galles, des commentaires politiciens qu'il ne pourrait plus faire quand il serait sur le trône. Il a été préparé pour ça. Édouard VII, son ancêtre, qui a attendu longtemps, si je puis dire, que sa maman Victoria trépasse, a connu un peu la même chose. La mort de la reine serait un cataclysme parce que c'est la fin d'une époque. Mais en même temps, aujourd'hui, par sa longévité, elle a battu tous les records de sa trisaïeule Victoria. Et depuis la naissance des enfants de William et Kate, et encore plus maintenant, on voit une chose qu'on n'avait pas vue depuis 1895, quatre Windsor vivants sur une même photo. C'est donc une leçon, si vous voulez, d'avenir, joint au passé, qui rassure. Quelles que soient les conséquences du Brexit, on dira, bon, la royauté tient le coup, la reine aussi. On continue, on n'est pas tourné vers le passé, et encore une fois, la reine est quelqu'un qui a toujours prévu l'avenir.
Avec le plus grand respect, le plus profond respect à l'égard de votre pays et de la population britannique, je vous demanderai, Votre Majesté, de prendre la parole devant cette assemblée.
Extrait du discours de la reine Élisabeth d'Angleterre devant le Parlement européen, le 12 mai 1992.
Mr. President.
Monsieur le Président, dans un discours prononcé à Zurich en 1945, Winston Churchill a décrit la tragédie de l'Europe. Il a comparé la richesse et la vitalité de l'Europe en matière de culture, dans le domaine des arts, de la science, mais il a comparé en se remémorant la succession de conflits autodestructeurs qui ont affligé notre continent. Au lieu d'être une force de civilisation et de tolérance dans le monde, l'Europe et ses rivaux, trop souvent, ont été la cause de la guerre, et une guerre à l'échelle mondiale.
Alors, pas tourner vers le passé, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Jean Descartes, que ces familles royales renvoient une image déconnectée de la réalité de tout un chacun, avec un luxe, un faste et un mode de vie qui, même s'ils sont très en prise avec l'actualité, la réalité d'aujourd'hui, ont quelque chose quand même qui appartient aussi au passé?
Non, pardonnez-moi, mais je ne suis pas du tout d'accord parce que c'est pas du faste, c'est du luxe, c'est de la tradition. On aime être représenté. Les Français se plaignent souvent de ne pas être assez représentés aujourd'hui. On a un régime qui a ses qualités et on a vu des manifestations récemment où il n'y avait pas grand monde et c'est dommage pour la représentation, le symbole de l'État. La reine paie ses impôts. La reine, je le répète, très économe. Elle met plusieurs fois la même robe, contrairement à ce qu'on raconte. Bon, peut-être un peu retravaillée. Le pot de confiture que vous recevrez à votre petit déjeuner, si vous êtes invité, s'il n'a pas été fini le matin, vous l'aurez à nouveau le lendemain matin. C'est la même chose avec la reine de Danemark. On ne gaspille pas, surtout quand on a connu la guerre. Et la population britannique adore les fanfares, les parades. Londres est une ville où le cheval est resté très présent. Il y a un monde fou. Et les paris des bookmakers, c'est la même chose. Alors, les temps sont durs, sont difficiles. Il faut que le monarque se tienne bien comme il faut, qu'il soit... Mais elle est parfaitement, encore une fois, elle a ouvert le portail Internet elle-même, avant tout le monde. Elle a des comptes cryptés. Elle correspond, elle reçoit à peu près 300 lettres par jour. Elle n'est tout sauf déconnectée, Elisabeth II. Simplement, elle est discrète. Voyez-vous, elle n'a pas la fâcheuse habitude d'envoyer des tweets toute la journée, de faire des commentaires sur des commentaires.
Alors, elle a 93 ans, donc la postérité et puis la suite sont à envisager. Elle l'a préparée ?
Ah oui, tout est prêt. Tout est prêt, bien entendu. C'est prêt depuis le premier jour, avec des modifications, bien entendu, parce que c'est l'essence de la monarchie. L'avenir a un visage. Un nom. La reine Mary, la veuve de George V, faisait répéter ses funérailles aussi. Donc, en attendant, quelqu'un qui a 93 ans, le prince Philippe en a 97. Si le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, nous quittait avant la reine, ce serait un choc épouvantable pour elle. Parce que c'est tout de même l'homme d'une vie, c'est l'histoire d'une vie et c'est une partie de l'histoire du monde.
Actuellement, elle est toujours très présente en ce qui concerne la vie politique de son pays.
Ah ben oui, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, mais elle suit attentivement. J'aime autant vous dire que pour le Brexit, les consultations n'arrêtent pas. Toujours avec beaucoup d'humour quand il le faut. Par exemple, quand le prince Philippe a eu son accident de voiture, la presse britannique, qui est à la fois très dure mais très affectueuse avec la monarchie, qui ne passe rien mais qui sait vanter les qualités, a publié des dessins très drôles où on voyait le Premier ministre, Madame Theresa May, qui avait fait sa révérence à la reine, qui venait lui rendre compte des affaires de l'État, du royaume. Et la reine, pour la mettre à l'aise, lui dit merci d'être venue. Voulez-vous que Philippe vous raccompagne en voiture ? Et ce genre d'humour qu'on pratique avec talent outre-Manche.
Vous commencez votre livre, Jean Descartes, en faisant référence à un discours qu'elle a donné, le traditionnel discours de Noël en 2017, où, pour la première fois peut-être, elle a fait allusion à des choses plus personnelles. Elle a laissé transparaître quelque chose de son affect, de son attachement à son mari notamment. Pourquoi attendre 2017 pour ça ?
Elle a déjà fait plusieurs allusions, mais là c'était plus formel parce que c'est le seul discours qu'elle peut écrire elle-même sans l'aval du gouvernement où elle peut dire tout ce qu'elle veut. Donc elle en profite parce que le discours du trône est écrit par le Premier ministre. Elle a d'abord rendu hommage aux victimes du terrorisme, puisqu'il y avait eu plusieurs attentats. Elle s'était rendue sur place et elle a voulu rendre hommage à Philippe. C'est une déclaration d'amour, voulant dire avec ses plaisanteries, avec ses sautes d'humeur, mais donc il est le compagnon de tant d'années. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir ce qu'elle avait sur son bureau. Les photographies, les anciennes photos de son mariage en noir et blanc, puis les photos en couleur avec les enfants, les petits-enfants, maintenant les arrière-petits-enfants. Elisabeth II est maintenant 8 fois arrière-grand-mère. Donc c'est tout un monde, si vous voulez, qu'elle représente. Les gens y sont très attachés, même les travaillistes les plus acharnés, parce que c'est le maintien de l'État. C'est l'État qui continue quand le gouvernement ne fonctionne plus. Dans des proportions différentes, bien entendu, pas comparables, mais en Belgique, vous avez le même phénomène. On a connu une Belgique où il n'y avait pas de gouvernement, mais il y avait un État.
Il y avait un roi.
Voilà.
Reflecting on these events makes me grateful for the blessings of home and family.
Extrait des vœux de Noël de la reine Elisabeth d'Angleterre en 2017.
En pensant à ces événements, je me sens reconnaissante de la bénédiction que sont le foyer et la famille, en particulier mes 70 ans de mariage. Je ne crois pas que quiconque avait pensé à des noces de platine à ma naissance. Nous ne pensions pas être là si longtemps. Même le prince Philippe a décidé qu'il était temps de ralentir le rythme, ayant, comme il le dit en peu de mots, payé son dû. Mais je sais que son soutien et son inimitable sens de l'humour restent aussi forts qu'ils l'ont toujours été.
Je trouve que c'est un témoin et un acteur, une actrice exceptionnelle. Enfin, il n'y en a pas d'autre.
Merci beaucoup, Jean Descartes, d'être venu nous parler d'Elisabeth II. La Reine, c'est ainsi que s'intitule le livre que vous publiez chez Perrin. Vous êtes l'auteur d'autres ouvrages nombreux consacrés aux familles royales, notamment d'Europe. Un très grand merci à vous et merci à Pierre-Henri Paget qui était à la technique.
Merci.